Quartz Livre, Christian Tchoka.
Bonjour Philippe Forest.
Bonjour.
Très content de vous accueillir dans Quartz, notre newsletter. Et évidemment, on va parler aussi d'abord de votre actualité littéraire. Vous venez de publier dans l'excellente collection Tract, le 18e Tract chez Gallimard, l'université en première ligne à l'heure de la dictature numérique où vous tempêtez contre un insidieux contrôle. Vous y dites ceci, je vais juste situer ça, ça me paraît important. Un système de surveillance généralisée et d'une nature nouvelle est en train d'être mis en place et c'est à ce système que le passage au distanciel va soumettre l'université. Voilà donc, en un mot, Philippe Forest, c'est une manière de vous inquiéter de ce qui arrive par cette dictature numérique ?
Oui, oui, absolument. J'ai écrit ce texte avant l'été, le distanciel était déjà largement en place en raison du premier confinement. On pouvait s'attendre à ce que la même expérience se répète, c'est ce qui a eu lieu. Mais je suis surtout surpris du manque de réaction des enseignants, des étudiants, qui semblent tous accepter comme allant de soi cette systématisation du numérique qui a pour effet de vider les universités, de les fermer, et surtout de mettre en place, oui, comme je le disais dans l'extrait que vous avez cité, un système généralisé de surveillance. Giorgio Agamben avait publié en Italie il y a quelques mois un texte dans lequel il allait peut-être un peu loin, mais il comparait de manière très frappante les enseignants qui accepteraient de se soumettre au distanciel à ceux qui, en Italie, avaient prêté allégeance au régime mussolinien au début des années 30, je crois, en 1931. Bon, je ne dis pas que la dictature qui nous menace aujourd'hui soit de même nature que le régime fasciste. Je ne le dis pas parce que je ne le pense pas, mais je crois malgré tout qu'il y a il y a de très solides raisons de s'inquiéter pour les libertés académiques, ce qu'on appelle les libertés académiques qui sont menacées par ce système de surveillance globalisée.
On rappelle que vous enseignez à Nantes. À Nantes, oui. On va aussi se rendre en passant par Napoléon. Et puis, avant que nous parlions de cet étonnant essai, et c'est un essai d'ailleurs, Napoléon, la fin et le commencement, j'aimerais quand même citer un livre tout récemment paru également chez Gallimard, L'éloge de l'aplomb et autres textes sur l'art et la peinture, dans la collection Art et Artistes, où vous revendiquez votre subjectivité, la subjectivité de votre regard sur l'art, l'art du passé, mais aussi l'art contemporain. Tout cela est prometteur, je ne l'ai pas reçu à temps, tant pis, j'en ferai ma lecture des fêtes, si vous le voulez bien. Et puis maintenant, nous abordons Napoléon, la fin et le commencement, dans la collection des hommes qui ont fait la France, toujours chez Gallimard, votre éditeur traditionnel. Alors ce n'est pas un Napoléon que vous avez biographé, Philippe Forest, ni évoqué de manière romanesque, mais bien sa légende littéraire, déjà bien établie de son vivant. Et pour ce faire, vous vous êtes appuyé sur les écrivains du passé, bien sûr, Chateaubriand, Stendhal, Hugo, Balzac, Léon Blois et d'autres dont nous parlerons, qui ont été comme les guides de cette geste napoléonienne. Alors, pensez-vous que cette vie s'apparente à un roman, et je crois de savoir que Napoléon le pensait aussi un peu.
Oui, il l'a déclaré, en tout cas c'est une phrase de lui qui figure dans le mémorial de Las Cases. Napoléon, donc à Sainte-Hélène, déclare « Quel roman que ma vie !» Alors on ne sait pas trop si cette phrase est apocryphe, si elle a été vraiment prononcée, parce que il y a un certain nombre d'incertitudes qui planent concernant l'authenticité, ou disons la fiabilité plutôt de ce mémorial, mais ça correspond tout à fait, je crois, au regard que Napoléon porte à lui-même sur sa vie, et c'est un peu une carte blanche donnée à l'écrivain pour restituer à cette vie cette dimension romanesque que le principal intéressé mettait lui-même en avant. Napoléon est d'abord et avant tout pour moi un grand personnage littéraire, en tout cas c'est de cette manière-là que je l'aborde, n'étant pas moi-même historien.
Alors vous n'êtes pas historien, bien que vous convoquiez également les historiens, nous allons le voir. Philippe Forest, vous êtes romancier, un romancier d'ailleurs d'ailleurs qui pencherait plutôt pour le scepticisme face à l'enthousiasme de la fiction. Il y a chez vous une mélodie en sous-sol, une mélancolie qui vous permettrait de prendre quelques distances. Mais j'aimerais vous soumettre une belle réflexion d'Aragon. Vous avez signé en 2016 chez Gallimard toujours une superbe biographie d'Aragon que j'ai lue avec passion. Et Aragon disait ceci: « La littérature est une affaire sérieuse pour un pays, elle est, au bout du compte, son visage. » Alors pensez-vous, Philippe Forest, pour le 19e siècle, que ce visage pourrait être celui de Napoléon, justement ?
Ah, il domine son siècle, c'est certain, et c'était l'avis de tous les écrivains qui se sont penchés sur lui. Mais ce qui m'a intéressé, c'est de montrer que Napoléon dominait le 19e siècle plus par son absence que par son éphémère présence. Il a régné peu de temps, une quinzaine d'années. Son destin connaît la fin que l'on sait le 18 juin 1815, le jour de la défaite de Waterloo, mais se retirant ainsi du jeu, contraint à l'exil à Sainte-Hélène, puis disparaissant, donc on va bientôt fêter le 200e anniversaire de sa mort, disparaissant ainsi, Napoléon continue à dominer le siècle, ou disons que c'est son fantôme qui continue à dominer le siècle, et qui donne à ce 19e siècle, en France en tout cas, une allure un peu spectrale et même mélancolique. Voilà un peu le visage que Napoléon donne à la France, je crois.
Est-ce une affaire, je dirais, hexagonale, si vous me permettez cette réduction, Philippe Forest ? Est-ce une affaire franco-française que de continuer de faire vivre la légende de Napoléon ou de Bonaparte ? Ce n'est pas forcément la même. Ou plutôt, est-ce une manière de relire continuellement Stendhal, Chateaubriand, Balzac, Hugo, Barrès, Blois, que j'ai déjà cité, ces immenses écrivains qui, eux aussi, ont eu besoin de s'affronter au destin de Napoléon ?
Je ne crois certainement pas que ça soit une histoire franco-française, parce que sans doute qu'elle concerne les Français un peu plus, mais elle concerne les Européens, elle fascine, elle a fasciné le monde entier, elle continue à le faire. J'ai assisté il y a quelques années à Nankin, je vais souvent en Chine où je suis traduit et où je suis également professeur invité. J'ai assisté il y a quelques années à Nankin, une grande exposition consacrée donc au musée de Nankin à Napoléon et qui attirait des foules absolument énormes. Bon, et pour prendre un exemple un peu moins lointain, il y a beaucoup de très grands écrivains européens qui, eux aussi, ont exprimé leur fascination pour Napoléon, à commencer par Goethe, et puis un peu plus tard, bien sûr, il y a Tolstoï, mais aussi, à l'époque de Napoléon, Byron. Enfin, Napoléon a laissé sa marque un peu partout, en Europe, en Suisse, en Italie, bien sûr, en Allemagne. Il parle à la conscience, je crois, de tous les Européens, parce que d'une certaine manière, bon, d'une manière qu'on peut discuter, bien sûr, mais d'une certaine manière, il se voulait un Européen. Je le dis dans le livre, et c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi, il n'est absolument pas un champion de l'identité nationale, si on envisage l'identité en termes d'enracinement. Il était à peine français, hein. Il est né en Corse l'année où la Corse, après avoir appartenu à la République de Gênes, est devenue française. On dit qu'il parlait très mal l'italien, très mal le français aussi, mais il ne s'est jamais considéré comme Corse, il s'est considéré comme français, mais comme appartenant à une France qui avait vocation à ne pas se replier du tout sur une identité, comme je viens de lire, conçue en termes d'enracinement. Je crois que Napoléon parle à tout le monde.
Oui, elle parle beaucoup aux Suisses, parce que grâce à lui, l'acte de médiation de 1803, les cantons ont dû s'agréger, en tout cas se parler, ce qu'ils ne faisaient pas avant 1798, avant la République helvétique que la France a imposée. Mais j'aimerais revenir à Ajaccio, où Napoléon est né en 1769. Vous le dites bien, il n'est pas corse. D'ailleurs, il détestera cette espèce de verrue sur l'Europe, dira-t-il. On le lit dans l'ouvrage.
Je le dis avec prudence parce qu'on connaît la susceptibilité des Corses.
Oui, d'accord. Mais
je le dis quand même un peu par provocation. Mais il est vrai que Napoléon détestait qu'on lui rappelle ses origines corses.
Oui. Alors c'est déjà un paradoxe. Et puis il s'est formé dès l'âge de 9 ans à l'école des cadets, à l'école militaire de Brienne, donc en Champagne. Et c'est là, bien plus tard, comme vous l'évoquez également, Philippe Forest, qu'il s'origine en quelque sorte dans cette France campagnarde. Autre paradoxe, ce petit Corse qui gagne le continent à l'âge de 9 ans et qui ne le quittera plus et qui semble épouser le destin d'une France qui, il a 9 ans, donc nous sommes dans les années 1778-78, une France de la fin de l'Ancien Régime. Qu'est-ce qu'il en sait de la France, le petit Napoléon ?
Il en sait sans doute peu de choses, et d'autant plus que, adolescent et jeune homme, il reste tout à fait fasciné par la Corse. C'est plus tard qu'il dira son dédain de ses origines et qu'il se détachera totalement de l'île où il est né. Quand il est un adolescent à Brienne, quand il est un jeune soldat à l'époque de la Révolution, il est convaincu que son destin, le destin qui l'attend, se situe en Corse. Il veut œuvrer à la libération de son île natale et il veut redonner à son peuple la liberté qu'il a perdue. Et donc il est assez indifférent d'abord à la France et indifférent aussi à la Révolution qui se déroule pourtant presque sous ses yeux.
Alors cette indifférence, elle nous étonne, vu que, et vous l'écrivez d'une façon absolument superbe, j'aimerais citer cette phrase. « L'individu d'exception qui, seul, par sa volonté et son génie, avait fait la France, ou plutôt l'avait refaite, et puis l'avait défaite, l'avait refaite, peut-être, par sa défaite. » C'est poétique, c'est très musical et ça nous dit tant de cet homme qui fait, refait, défait la France. J'aimerais comprendre avec vous, Philippe Forest, comment ce Corse qui ne rêvait que de prendre en main le destin de cette île italienne encore jusqu'en 1768 est devenu le destin de la France. Mais pour cela, il faut passer par l'officier Bonaparte, j'imagine.
Oui, mais cette idée de Napoléon faisant la France en la défaisant, en la faisant, ça a été un peu le point de départ de ma réflexion. Et c'est ce qui m'a conduit à accepter cette proposition qui était quand même assez inattendue pour moi, que d'écrire après tellement d'autres sur Napoléon. La collection dans laquelle le livre paraît, comme vous l'avez rappelé, s'intitule « Des hommes qui ont fait la France ». Et donc je me suis demandé dans quelle mesure Napoléon avait fait la France ou pas. Et je me suis dit que c'était peut-être en la défaisant à Waterloo qu'il lui avait légué finalement ce qui de lui nous reste encore aujourd'hui. Alors comment est-ce que les choses se sont passées, pour répondre plus directement à votre question? Je crois que c'est ce mystère, et ce mystère du destin auquel Napoléon nous confronte et auquel je ne prétends pas du tout apporter de solution. Je crois que l'énigme reste entière. Mais il y a un moment dans la vie de cet homme où tout à coup il est convaincu, alors que rien ne lui donne apparemment raison, qu'il va avoir un destin qui fera de lui l'égal, disons, de Jules César, puisque c'est un peu le modèle auquel il se réfère et auquel il revient souvent. C'est un livre, en fait, surtout sur cette énigme du destin et sur la manière dont elle nous oblige à lire l'histoire un peu à l'envers. On sait ce que Napoléon est devenu et du coup, c'est peut-être l'effet de ce qu'on appelle l'illusion rétrospective. On reconstruit toute sa vie comme si elle devait fatalement mener là où finalement Napoléon a abouti.
Oui, et vous le rappelez, Philippe Forest, l'histoire commence toujours par la fin. Il y a comme une sorte de téléologie, c'est-à-dire une mise en perspective parce que nous connaissons la fin et que l'on doit retracer Les débuts de ce Napoléon Bonaparte, touché par la Révolution, où il s'engage comme tout jeune général. Et justement, il nous faut peut-être départager ce qui appartient à Bonaparte, le général puis le premier consul, le coup d'État du 18 Brumaire 1799, et puis ce qui appartient à proprement parler à Napoléon Ier, l'empereur. Faut-il, comme vous essayez de le balancer, faut-il distinguer Napoléon de Bonaparte ?
Tout le monde le fait. Je cite dans le livre un petit texte de Larousse, le Larousse du dictionnaire, qui dit qu'il faut distinguer Napoléon et Bonaparte comme s'il y avait finalement deux hommes. Et en général, la plupart des historiens, la plupart des écrivains, la plupart des commentateurs procèdent ainsi, et souvent pour donner raison à Bonaparte et condamner Napoléon, comme si Napoléon avait trahi finalement Bonaparte. Mais en réalité, lorsqu'on regarde les choses de manière un peu plus attentive, et c'est ce que j'essaye de faire en citant notamment Stendhal, Chateaubriand ou encore Victor Hugo, on s'aperçoit que personne ne place la frontière au même endroit qui sépare le jeune et héroïque Bonaparte du Napoléon coupable qui pose lui-même la couronne impériale sur sa tête. Ce qui prouve bien que s'il y a deux hommes, ces deux hommes sont tellement liés l'un à l'autre qu'on ne sait jamais véritablement duquel on parle lorsque l'on parle de l'un des deux. C'est un paradoxe de plus, une énigme de plus. Parce qu'en fait, dans ce livre, je ne fais pas œuvre d'historien, mais j'essaye de passer en revue, en quelque sorte, les paradoxes, les énigmes, les mystères auxquels nous confronte le cas Napoléon.
En tout cas, vous faites cas de l'effort des historiens pour cerner l'empereur, et puis vous mettez un peu à distance, Philippe Forest, les élucubrations des écrivains. Effort des historiens, élucubration des écrivains. On pourrait penser que les historiens gagnent la partie, mais non, parce qu'en vous suivant sur les pas de Stendhal et de Chateaubriand, prenons plutôt ses contemporains de Bonaparte, Stendhal qui le suit en Italie, qui franchit les Alpes, ce fameux tableau de David, le premier consul franchissant les Alpes, même si c'était en
totalement,
réalité...
Totalement mystificateur.
Oui, c'était une mule, dit-on, c'est vrai. Mais ce qui est intéressant avec Stendhal, c'est qu'il y a quand même une geste en devenir, et puis il y a besoin du mythe après les désordres de la Révolution.
Oui, Napoléon crée immédiatement une sorte de mythe, et c'est ce mythe qu'il nous lègue, c'est ce mythe qui nous reste finalement. Donc c'est à travers le mythe que l'on peut atteindre peut-être la réalité, si elle existe. En tout cas, c'est la démarche que j'ai essayé de choisir, d'adopter. Donc c'est vrai, les écrivains élucubrent, si l'on veut. Mais je dis ça avec un peu d'ironie ou d'auto-ironie, puisque moi-même j'élucubre à mon tour sur les élucubrations des autres. Mais je crois que ces élucubrations, elles nous disent vrai malgré tout, parce que la réalité n'est jamais dissociable de la légende, et particulièrement dans le cas d'un personnage comme Napoléon. Donc passer en revue les formes successives que la légende a prises, c'est une manière de saisir, pour autant qu'on puisse le faire, la réalité, ou du moins ce qu'il nous en reste.
Alors c'est vrai que si on poursuit un instant avec Stendhal versus Chateaubriand, Stendhal sera assez émerveillé par l'audace du général et du premier consul, peut-être plus dubitatif sur la geste impériale, oui, sans doute. Et puis Chateaubriand, lui, va l'attaquer, même s'il a bénéficié tout de même de quelques bienveillances de Napoléon. Ne serait-ce que parce que Napoléon était un formidable lecteur et aimait Chateaubriand. Donc on peut dire qu'il y a comme ça des liens organiques d'un grand lecteur, Napoléon, avec ses écrivains.
Ah oui, oui. Pour ce qui est de Stendhal, c'est clair, il le dit, Stendhal a eu le projet de deux livres consacrés à Napoléon qu'il a laissé inachevés, mais il en parle beaucoup, et notamment dans deux de ses romans, hein, La Chartreuse de Parme, qui nous fait assister de loin à la bataille de Waterloo, et puis surtout peut-être Le Rouge et le Noir, puisqu'on sait que c'est l'exemple de Napoléon qui inspire le jeune Julien Sorel. Mais pour Stendhal, Napoléon déchoit, Napoléon trahit Bonaparte au moment où il devient empereur, et c'est bien sûr le crime inexcusable qui conduit Stendhal à prendre un moment ses distances vis-à-vis de Napoléon. Mais le cas de Chateaubriand est plus amusant, je trouve, parce qu'effectivement, Chateaubriand a commencé par faire sa cour à Napoléon. Il lui a dédié le livre qui l'a rendu célèbre, le génie du christianisme, et puis il espérait bien que Napoléon lui ferait une place, une petite, pas trop petite d'ailleurs, une place au sein du régime nouveau qu'il avait mis en place. Et Napoléon a eu ce mot assez amusant et très cruel, et il dit à un moment « Mon problème, ça n'est pas d'acheter Monsieur de Chateaubriand, mais c'est de le payer au prix qu'il s'estime lui-même. » Et Chateaubriand a sans doute été déçu finalement du peu d'attention que Napoléon lui a témoigné, bien que Napoléon ait été un lecteur de Chateaubriand, et même à Sainte-Hélène, hein, il continue à penser du bien de Chateaubriand. Mais ça ne suffisait pas aux yeux de Chateaubriand, et c'est ce qui explique donc, lorsque l'occasion s'est présentée, Chateaubriand est devenu l'un des soutiens de la Restauration, l'un des soutiens de Louis XVIII, hein, dans un petit pamphlet qu'il publie en 1814, puis il revient là-dessus dans les mémoires d'outre-tombe. La faute de Napoléon, le crime de Napoléon aux yeux de Chateaubriand, ça n'est pas le sacre, parce que Chateaubriand considérait comme très normal, très naturel qu'un seul homme règne sur un pays. Non, le crime de Napoléon pour Chateaubriand, c'est l'assassinat du duc d'Enghien. Et c'est à ce moment-là que Napoléon se couvre les mains d'un sang royal qui va le disqualifier à tout jamais aux yeux de l'écrivain.
Oui, le duc d'Enghien qui était de la famille royale et que Napoléon, enfin non, c'est encore Bonaparte, fait fusiller d'une manière ignominieuse. D'ailleurs, il l'a capturé en Allemagne où il s'était réfugié, et il le fait fusiller parce qu'il pensait qu'il était à la tête d'une conspiration visant à l'assassiner lui-même, donc premier consul, oui. Et ça, avec une parodie de procès. Et c'est vrai que, alors que le premier consul était garant des droits, il était l'héritier de la Révolution, et c'est là tous les distinguos que vous aménagez, Philippe Forest, montrer que cet homme a été le flambeau de la Révolution. Mais il s'est posé une question au début du 19e siècle: comment finir la Révolution?
C'est la question que tout le monde se pose en France et en Europe. À vrai dire, les premiers à se l'être posé, cette question, ce sont les révolutionnaires eux-mêmes. Dès 1789, ils se demandent un peu comment arrêter la machine sur le point de devenir folle qu'ils ont eux-mêmes créée. Donc la terreur même, dans une certaine mesure, est une tentative de la part de Robespierre pour arrêter la Révolution, et puis plus encore, bien sûr, Thermidor, le Directoire. Et quand Napoléon arrive, s'il fait un relatif consensus sur son nom au moment du coup de Brumaire, c'est parce que précisément on voit en lui l'homme qui va pouvoir, doté de l'autorité qui est la sienne, enfin arrêter la Révolution et ramener un peu d'ordre et d'équilibre dans le pays. Ce à quoi parviendra dans une certaine mesure Napoléon, sauf que la violence qu'il va apaiser en France, il va la déchaîner sur le continent européen, ce qui entraînera sa perte. Vous savez, il y a un livre très célèbre et très important de François Furet qui a été consacré à cette question, et Furet explique la Révolution
française. La nature de la Révolution. Furet d'ailleurs est un analyste presque anti-révolutionnaire. Il pense que effectivement la Révolution fut sanglante. Enfin, c'est très disputé tout cela. Mais vous convoquez également François Furet au procès de Napoléon. C'est une sorte de Louis XIV démocratique ?
C'est ce que dit Furet. Furet a malgré tout de l'admiration pour Napoléon, mais il analyse de façon magnifique cette longue durée du phénomène révolutionnaire en disant que la Révolution française, bon, elle ne s'arrête pas en 91, ni en 93, ni en 94, ni en 99. Elle ne s'arrête pas non plus avec la chute de Napoléon. En fait, elle se poursuit jusqu'à la fin du 19e siècle parce que sous la Troisième République, la question est toujours celle-là, comment stabiliser le régime qui est né de la Révolution de 1789, comment trouver une manière de faire rentrer dans la réalité politique et sociale les principes de rupture qui sont nés à la fin du XVIIIe siècle. Moi, je ne sais pas si la Révolution française est vraiment terminée, si elle s'est terminée à la fin du XIXe siècle, comme le dit Furet. Je pense que nous sommes encore les héritiers de cette histoire-là et toujours en quête d'un équilibre démocratique qui peut-être nous fait toujours défaut, je ne sais pas.
Oui, c'est une question fondamentale. C'est bien ce qui donne à votre ouvrage sa dimension, je le disais, téléologique, portée vers l'avenir. Une figure en devenir d'ailleurs que Napoléon qui continue, dites-vous, de changer constamment. Une figure qui ne se fige jamais. Et ça, c'est très moderne.
Oui, on réinvente, chacun d'entre nous, chaque génération, chaque époque, réinvente Napoléon. Et finalement, le Napoléon que chaque époque se fabrique en révèle peut-être plus sur l'époque elle-même que sur le héros, le personnage du passé à propos duquel toutes ces histoires se racontent. On peut tout à fait suivre, j'essaye de le faire dans un des chapitres de mon livre, les avatars successifs, les réincarnations successives de Napoléon tout au long du 19e siècle, mais encore jusqu'à aujourd'hui. L'histoire n'en finit pas de finir, on ne sait jamais très bien quand elle commence, mais on sait en tout cas qu'elle n'en finit jamais de finir, et c'est ce qui lui permet de recommencer sans doute.
Oui, c'est votre très belle phrase à la page 134, Philippe Forest. Avec Napoléon, quelque chose finit, commence à finir, n'en finira plus de finir, afin que s'opère de la sorte, aujourd'hui comme hier, le continuel recommencement de l'histoire. Ça me plaît énormément, et quel vertige pour le romancier que vous êtes, mais aussi l'essayiste. Il nous faut d'ailleurs, et vous le faites dans cet essai, on peut l'appeler ainsi, un bilan bien plus positif que ses détracteurs ou même ses défenseurs ont bien voulu le faire, car on apprend que d'abord ce Napoléon était un très grand lecteur, c'était aussi un grand écrivain, c'était aussi un lettriste, puisqu'il a publié pas moins de 40 000 lettres, et des lettres amoureuses fort belles. Vous les soulignez à Joséphine de Beauharnais, sa première épouse. Et puis, il faut peut-être alors, sans transition, se demander s'il n'a pas traversé l'histoire comme un artiste plutôt que comme un dictateur.
En tout cas, c'est la vision romantique de lui qui a prévalu dès le 19e siècle et qui n'a cessé de fasciner encore au 20e siècle. Il y a toutes sortes de portraits quasi délirants qui ont été faits de Napoléon par des écrivains. Je pense notamment à Elifor, hein, l'auteur de l'Histoire de l'art, dont le livre qu'il a consacré il y a un siècle à Napoléon a inspiré le très grand film d'Abel Gance. Un petit peu avant, il y avait un livre plus délirant encore de Léon Blois qui s'appelle L'âme de Napoléon. Bon, bah, tous ces gens-là, bien sûr, contribuent au mythe.
Alors, bien sûr qu'ils y contribuent, vous aussi, encore que vous êtes beaucoup plus distancié, parce qu'en fait, on peut se poser la question, le terme est tout à fait contemporain. Est-ce que Napoléon était un centriste autoritaire? En tout cas, il n'a rien du dictateur moderne à la Hitler, à la Mussolini, à la Staline ou à la Erdogan, si vous me permettez. Il y a chez Napoléon cette fin d'humanisme, cette sensibilité aussi humaine, même si, bien sûr, il a écrasé certains droits pour mieux régner. Mais il n'appartient pas à ces personnages horrifiques de l'histoire.
Oui, bah, j'ai plutôt une sympathie pour Napoléon et après avoir écrit ce petit livre, ma sympathie est plus grande encore qu'autrefois. Bon, bien sûr, il ne faut pas passer sous silence les millions de morts que Napoléon a causé sur le continent européen. Millions, j'exagère peut-être, je n'ai plus les chiffres en tête, mais enfin, en tout cas, rapporté à la population de l'époque, c'était quelque chose de
considérable,
de colossal.
Oui, oui. Oui.
Je cite, c'est un texte très peu connu et j'ai été intéressé lorsque je l'ai découvert, je cite un extrait des mémoires de Barras qui avait été l'amant de Joséphine, mais surtout le mentor du jeune Napoléon, et qui raconte que après la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, donc Barras aperçoit Sade, qui d'ailleurs était un membre lointain de sa famille, qui vient d'être libéré de la prison où il croupissait. Et là, il y a quelques pages assez étonnantes dans lesquelles Barras fait un parallèle entre Sade et Napoléon. Parallèle curieux, parce que Napoléon, qui était assez sentimental, détestait Sade, qu'il considérait comme un monstre. Mais malgré tout, Barras se demande si le vrai sadique, ça n'a pas été ce Napoléon qui jouissait du spectacle des morts sur les champs de bataille, notamment sur le terrible champ de bataille de Eylau. Donc il ne faut pas oublier tout ça. Mais malgré tout, je pense que ce qu'il faut porter au crédit de Napoléon, c'est qu'il a été quelqu'un qui a voulu, plus ou moins, tant bien que mal, mettre en place les conditions de ce qu'on appelle aujourd'hui un état de droit. Il ne faut pas oublier que lorsque l'Empire est proclamé, il est entendu, les textes le disent, qui confient donc le pouvoir absolu à Napoléon, il est entendu que ce pouvoir impérial doit être exercé par Napoléon dans le respect des principes qui ont été les principes de 1789. Donc il y a bien la volonté de la part de Napoléon et de ceux qui le soutiennent de ne pas faire disparaître la République avec l'Empire, mais au contraire de consacrer la République par l'Empire.
Et d'autant
bon,
plus
il y a
que
beaucoup de choses à dire contre Napoléon, mais malgré tout, je crois qu'il a eu véritablement et sincèrement ce souci de trouver un point d'équilibre qui permettrait à la France et à l'Europe de ne basculer ni du côté des horreurs de la Révolution, de la Terreur, ni du côté, j'allais dire des horreurs, ce serait peut-être excessif, mais en tout cas ni du côté d'un retour préjudiciable à un ancien régime qui aurait aboli les grands principes de liberté et d'égalité que 1789 avait proclamé et dont Napoléon s'est toujours voulu, hein, il le dit même à Sainte-Hélène, le champion, le défenseur.
Oui, le défenseur, en s'appuyant néanmoins sur cette bourgeoisie conforté par la Révolution, puisque Furet dit bien qu'il s'agit de la victoire bourgeoise et que oui. Napoléon s'est appuyé non pas sur les paysans et les ouvriers en devenir, mais sur ces notables dont il avait besoin. Donc il y a là toute l'ambiguïté, mais aussi toute l'ambiguïté du destin. On pourrait aussi se poser cette question. Elle m'est venue en me rappelant de Paul Virilio, ce formidable essayiste mort il y a peu, qui était aussi dromologue. Et qui fut en 1940, Philippe Forest, alors qu'il était enfant, extrêmement frappé par la Blitzkrieg, ces chars allemands qui pénétraient de la ligne Maginot qu'ils avaient contournée des Ardennes jusqu'à Paris en 2 jours. Et on peut se demander si Napoléon, entre autres grands gestes, n'a pas inventé la formidable vitesse de notre modernité. En dromologue, lui aussi a lancé des blitzkrieg, des guerres éclairs, et là, il ouvre complètement l'histoire.
Oui, alors moi je ne suis pas du tout un expert en matière d'art de la guerre, mais
moi
effectivement,
non plus,
c'est ce que disent les spécialistes. C'est ce que disent les spécialistes, et il y a quelque chose de fascinant. Je reprendrai le mot de vitesse, hein, vitesse sur le champ de bataille, mais vitesse aussi dans la conception et surtout dans l'exécution des grands projets qui occupent l'esprit de Napoléon. Hein. C'est absolument foudroyant, hein, la campagne d'Italie, la campagne d'Égypte, même si elle s'achève sur ce qu'on peut présenté comme un échec. Et puis, bien sûr, toutes les autres campagnes qui vont permettre à Napoléon de triompher un peu partout en Europe, sur les champs de bataille d'ici ou de là. Il y a quelque chose de véritablement foudroyant dans cette capacité qu'a Napoléon d'aller plus vite que tous les autres, de penser plus vite que tous les autres, d'écrire plus vite que tous les autres, et surtout de guerroyer, oui, plus vite que les autres.
On pourrait lui prêter le mot de Paul Valéry, « Je suis rapide ou rien ».
Ah, je ne connaissais pas cette citation de Valéry, mais oui, elle est tout à fait appropriée. Oui.
Tout à fait, je suis rapide ou rien. C'est bien pour ça que les contemporains n'ont pas pu suivre cette course effrénée, cette course qui s'est mal finie. Mais vous dites qu'on peut triompher dans la défaite, on peut triompher après Waterloo. Et c'est bien ce qui est arrivé au destin de ce grand mythe qui, comme César ou Alexandre, s'est perpétué par sa défaite et pas seulement par ses actions.
Oui, c'était le point de départ du livre et c'est pourquoi le livre commence par l'évocation de Waterloo et c'est aussi la conclusion à laquelle j'arrive. En bouclant ainsi un peu la boucle, je dis que Waterloo fut un peu une défaite à la Pyrrhus, c'est-à-dire donc le contraire d'une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire une défaite qui en réalité est une victoire. Et c'est par le caractère tragique de son existence que Napoléon a frappé si fortement les consciences. Et c'est ainsi que s'est développée toute cette mythologie romantique qui continue, je crois, jusqu'à nous à façonner, à formater notre représentation que nous nous faisons de Napoléon, de Bonaparte. Mais ce qu'il y a d'étonnant, et c'est là qu'on revient à cette question du destin, c'est que tout donne à penser, dans une certaine mesure, que Napoléon a lui-même souhaité son échec, comme s'il avait compris que l'échec seul parachèverait sa vie et le destin qu'il s'était choisi. Il y a un côté très sombre, très mélancolique, quasi suicidaire aussi chez Napoléon.
Ou très théâtral, lié
oui.
À la tragédie, puisque lui ne pensait bonne qu'une tragédie où les héros meurent. Il s'est projeté dans cette pensée sur la tragédie. Mais on pourrait faire une toute dernière pirouette, Philippe Forest. On n'a pas tellement pirouetté jusque-là, on a cavalé derrière le premier consul.
Il y a de la matière et il va vite.
Oui, il va vite. Mais la dernière pirouette, elle vous appartient. Vous aimez beaucoup le général Cambronne et son fameux,
oui.
Que je vous laisserai dire. Pourquoi vous aimez Cambronne?
On peut dire. J'aime Cambronne d'abord en raison du portrait de lui que fait Victor Hugo. C'est par là que je commence dans l'un des chapitres des Misérables. Bon, on ne se rappelle pas toujours parce que le livre est énorme, parce qu'on l'a lu il y a longtemps, parce qu'on le connaît surtout par ses adaptations cinématographiques, mais on ne se rappelle pas toujours qu'il y a toute une partie des Misérables qui évoque la bataille de Waterloo, puisque Thénardier est un soldat dans l'armée de Napoléon et qu'il va détrousser les cadavres, dont le cadavre de celui qui sera le père de Marius, qui épousera, enfin, etc. Je raconte tout ça dans le livre.
Mais oui,
donc,
oui, tout à fait.
Il y a des pages absolument magnifiques de Victor Hugo sur Cambronne. Victor Hugo dit l'homme qui a gagné Waterloo, c'est Cambronne. Et il l'a dit en raison du mot qu'il a opposé justement au destin. Il y a quelque chose de proprement rabelaisien. Je crois que Victor Hugo dit Cambronne, c'est comme Rabelais avec Léonidas au moment de la fameuse bataille dans le défilé des Thermopyles. Voilà, c'est rajouter quelque chose de trivial, d'énorme, de grotesque à la tragédie historique lorsque celle-ci est sur le point de s'achever.
Eh oui, c'est
donc
de dire.
Je fais l'éloge de.
Oui,
de
c'est
Cambronne.
De dire merde à l'ennemi. Voilà. Nous l'avons dit. Bien. Philippe Forest, à tout grand merci de cette superbe chevauchée.
Merci à vous.
Qui aussi plonge dans la biographie de Bonaparte et de Napoléon. En tout cas, de ces deux personnages, en croisant bien d'autres, les écrivains, votre plume aussi très alerte. C'est un très, très beau livre. Napoléon, la fin et le commencement des hommes qui ont fait la France chez Gallimard. Merci encore.
Merci à vous.